Je suis avec Wilfried. Bonjour, comment vas-tu ?
Eh ben, je vais très bien, une bonne pression là, qui m'attend, là. Une petite heure de compte à la radio, ça va être impressionnant pour moi, mais ça le fait, je suis bien content d'être là.
Je suis très content que tu sois venu aussi. Alors, quels sont le sujet de tes comptes aujourd'hui ? Que viens-tu nous narrer ?
Alors, au début, je voulais absolument commencer par les comptes que j'ai fait, le collectage gitan que j'ai mené en 2015, mais sur Perpignan, hein, avec la cité Bélus, et puis à Saint-Jacques. Et puis finalement, je ne les ai pas assez en tête. Il me manque un petit peu de travail dessus. Donc, j'ai voulu présenter les Dits du Roussillon. Les Dits du Roussillon, c'est les légendes d'ici. Et il n'y a rien de tel que de s'installer sur notre territoire pour commencer après à rêver à d'autres univers.
C'est un très très bon choix, je trouve, pour une première émission de contes. On n'a pas encore trouvé de nom, d'ailleurs, il va falloir peut-être trouver un nom ou pas, on verra bien comment ça va se faire. Et du coup, comment tu veux commencer ?
Ah ben, trouver un nom, il y a Contes en campagne qui me tient à cœur depuis des années et des années. Ça fait même des dizaines d'années maintenant qu'on peut... On peut le poser, donc c'est vrai que, les contes urbains, quel titre on pourrait donner sur une radio avec ces histoires
J'avoue que j'aime bien Contes en campagne.
Oui, Contes en campagne, oui, mais c'est le festival, festival des foyers, donc il va falloir le promouvoir, ce festival, mais c'est parce qu'il faut toujours le porter haut et fort, mais... Il faudra que ça soit un lien. On va le chercher hors antenne, je crois.
Ça marche.
Alors, pour commencer, moi, j'ai bien envie de parler d'une personne qui s'appelle Horace Chauvet, parce que c'est vraiment... C'est mon père spirituel du Roussillon, parce qu'il a fait un collectage dans les années 1850, à l'époque où il y avait Grimm, où il y avait Afanassiev en Russie, qui faisait tous ces collectages. Et en France aussi, on a voulu faire pareil qu'en Allemagne et que dans tous les autres pays. On a voulu faire du collectage. Et il y a eu un homme, Horace Chauvet, qui est venu sur la plaine du Roussillon, qui nous a fait un beau collectage avec plein d'histoires, dont le typique... l'histoire du pont de Céré que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui parce que je crois que vraiment celui-là c'est connu par tout le monde, mais essayez de vous emmener vers d'autres répertoires qu'il a collectés. Et ce qui m'a beaucoup plu avec Horace Chauvet, c'est que c'est le seul qu'il a fait. Depuis, personne n'a collecté sur la plaine du Roussillon. Il faut voir que depuis... Il y a eu le collectage en montagne, bien sûr, en Cerdagne, au Cap-Cire. Ah tiens, voilà, ça y est. Allez, compte à propos, c'est toujours comme ça. Alors, je vais pouvoir commencer avec celui du Cap-Cire. C'est un homme qui... Un paysan. Ce paysan-là, il est dans le Cap-Cire. Il travaille la terre et... C'est un râleur. Et il aime travailler la terre, il n'y a pas de doute, mais il est tout le temps en train de râler. À peine arrivé sur le champ, que déjà il râle. Alors, comme il n'y a personne, il n'y a pas d'amis avec lui, hein, personne ne veut l'aider à travailler, il râle sur ses bœufs, il râle sur la nature, les petits oiseaux qui passent. Ça fait trop de bruit, ça l'énerve. Et puis la terre, elle est toujours dure. Dans le Cap-Cire, c'est vrai que la terre, elle est dure hein, quand même. Hein, que ce soit en été, la terre, elle est trop dure, et ça manque d'eau. Que ce soit en hiver, il fait trop froid, la terre, elle est trop dure. En automne, là, il y a trop d'eau, c'est pas possible de travailler la terre en automne. Il n'y a qu'une petite période au printemps où le père Pigne, il y va, quoi. Il y va, il travaille avec ses bœufs, et puis il arrive à sortir un petit peu de légumes qui suffit à nourrir tant bien que mal sa famille, et il en vend un petit peu pour avoir d'autres agréments pour lui, mais rien de précis, c'est pas assez, quoi. Et 8 enfants, hein. Moi j'en ai 3 et déjà il faut les nourrir, hein. J'espère que ma femme elle écoute pas mon histoire parce que sinon elle va m'en vouloir après. Et donc elle travaillait dur à la terre comme ça et puis il râlait, et ce jour-là, parce que dans les histoires il y a toujours un jour particulier, il râlait un peu plus que d'habitude. Et il râlait sur la rivière qui passait par là. Allez-vous savoir pourquoi ? Déjà, la rivière, il avait de la chance d'avoir des terres où la rivière passe. Et là, il râlait sur la rivière. Et à ce moment-là, la rivière lui a parlé. Alors, vous savez, dans les contes, il y a des choses qui sont particulières quand même. Bon, il faut dire que c'était un ancien temps. C'était la grand-mère qui racontait ça à Horace Chauvet. Et effectivement, peut-être que ça s'est passé comme ça. Enfin, quand même, une rivière qui parle, il ne faut pas... Bon, c'est une vraie histoire, hein. je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais c'est une vraie histoire puisque je vous la raconte. Bon, enfin, donc, dans mon histoire, le père Pigne, il râle et la rivière lui dit, bah, écoute, au lieu de râler, arrête de râler comme ça, et suis-moi, je vais jusqu'en bas, jusqu'à la mer, et là-bas, tu verras, il y a des terres qui sont cultivables. Le père Pigne, ça lui a cloué le bec. Il n'a pas dit un mot à ce moment-là. Et il est rentré le soir, sa femme, elle s'est inquiétée, il ne parlait pas, il ne râlait pas. Elle a servi à manger, il s'est couché, il n'a même pas dormi. Puis au milieu de la nuit, il avait pris sa décision. Il allait suivre les conseils de la rivière. Et c'est comme ça qu'il s'est levé le matin et il a dit à ses enfants, « Bon allez, on prépare toutes nos affaires, on met tout sur la charrette et on s'en va d'ici. C'est trop dur, cette vallée, elle est trop difficile. » Et voilà que le père Pigne a mis toutes les affaires sur la charrette. Oh, ils n'avaient pas grand-chose, alors c'est allé vite. Hein. Les enfants, ils ont pu monter sur la charrette, même la femme, elle a pu monter sur la charrette. Et les deux beaux ont tiré, et le père Pigne avançait. Il suivait la rivière, il tourne à gauche, tourne à droite, marche un peu, marche beaucoup. C'est en marchant qu'on fait du chemin. Ça, les compteurs, ils le savent. Et ça tournait, il avançait. Une journée comme ça est passée, et puis à la fin de la journée, le temps il était plus clément. Il s'est installé, il était content, et puis il a attendu, et s'est endormi, les enfants aussi. Le lendemain matin, les enfants, ils sont de suite descendus de la charrette, ils sont descendus, et puis ils ont commencé à jouer, et puis lui, il a commencé à avancer, sa femme, elle est descendue de la charrette, elle a marché à côté de Perpine, et tout le monde était heureux. Ils ont même trouvé un arbre, il y avait des petites graines, là, un bon figuier, avec des figues bonnes à manger, il les a goûtées, il s'est dit, mais c'est pas possible, là, il y a des fruits qui sont bons à manger, on n'a même pas besoin de les cultiver, et puis il a continué à descendre, comme ça, et le deuxième jour, quand il s'est couché, tous les enfants ils sont mis par terre. La terre, elle était meuble, elle était douce, elle était agréable, et tous ont pu dormir encore mieux que dans leur lit. Alors, c'est pour dire. Et donc, c'est le temps à passer, la nuit est passée, et puis au petit matin, ils sont encore repartis sur les chemins, tourne à gauche, tourne à droite, marche un peu, marche beaucoup. C'est en marchant qu'on fait du chemin, et ils sont arrivés près de la mer. Et ça, ni les enfants ni les parents ne l'avaient vu. Ils se sont régalés. Il est allé voir le père Pigne, la rivière. Il a dit, ben voilà. Je t'ai suivi, et maintenant, où c'est que je peux m'installer? Un peu plus haut, là, à la colline. Installe-toi sur la colline. Alors, il s'est installé sur la colline, il a fait un grand cercle avec ses bœufs, et puis ça, c'était toutes les terres qu'il allait cultiver, et au milieu, il a commencé à construire sa maison, une ferme, et puis il a cultivé, c'était tellement facile qu'il n'a pas fallu une année pour en avoir suffisamment, même trop, alors il a commencé à vendre ses légumes, à vendre tout ça sur le bord du chemin, il y avait la voie dominicaine qui passait pas très loin, alors il a commencé à vendre tout ça, et puis le temps a passé, et les gens, ils ont vu comment il s'était enrichi, le père Pigne, alors ils sont venus s'agglutiner à côté de lui, ça a créé un village, de ce village c'est devenu une ville, et puis quand le père Pigne est mort, ben on a donné le nom à cette ville, le Perpignan, paraît-il, mais ça, je suis pas sûr que ce soit vrai, que Perpignan a été créé comme ça. D'autres personnes vous diront, des scientifiques, des intellectuels, des historiens, vous diront que c'est pas du tout cette histoire, la création de Perpignan, mais c'est un légionnaire, Perpinius, qui est arrivé et qui a donné le nom à cette ville. Moi, j'en sais rien, mais toujours est-il que si vous allez au Palais des Rois de Majorque, vous verrez derrière le kiosque en rez-de-chaussée, vous verrez la statue du Perpigne avec ses deux bœufs. Et c'est comme ça que cette première histoire se finit.
C'est fabuleux.
Ça va ? Ça passe bien, ça ?
Ah oui. Ah, bon. Je me suis régalé, moi.
Eh bien, alors, c'est super. Eh bien, voilà, c'est les histoires du Roussillon. C'est quelque chose qui sonne bien. Allez, je vais aller à Cabestany vendredi et pour faire une visite de la ville théâtralisée. Et dans cette visite, j'ai bien envie de la raconter, cette histoire. On doit la faire à 18h. Je ne sais pas, je crois que c'est sur... il faut aller réserver à la médiathèque de Cabestany. Mais quand même, cette histoire du Perpigne, ça irait bien, non, à Cabestany. Je pense que ça serait une bonne chose de la sortir.